France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Au XIIIe siècle, le roi de Castille, Alphonse X, se lance dans un vaste projet savant qui implique la rédaction de nouvelles tables astronomiques. Instrument indispensable à l'établissement du calendrier ou encore au calcul du mouvement des planètes, ces tables astronomiques, dans leur nouvelle version reprise et transmise par des astronomes à Paris, sont à leur façon l'une des premières entreprises scientifiques européennes. Science Chrono retrace aujourd'hui l'histoire de ces tables alphonsines qui ont constitué un manuel standard pour les astronomes occidentaux jusqu'au XVIe siècle. Bonjour Mathieu Husson.
Bonjour.
Vous êtes chercheur CNRS au sein du laboratoire Temps-Espace de l'Observatoire de Paris et vous avez dirigé le projet de recherche Alpha dédié à l'étude de l'astronomie alphonsine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler de ces tables astronomiques qui ont dominé dans l'astronomie médiévale. Avant d'expliquer les raisons pour lesquelles elles ont été aussi importantes dans l'histoire de l'astronomie occidentale, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous parlerons des Taïnos et des Kalinagos, ces sociétés amérindiennes qui peuplaient la Caraïbe avant l'arrivée des Européens. On verra comment l'archéologie nous informe sur l'histoire plurimillénaire de ces sociétés qui ont largement été détruites par la colonisation. Mais avant de parler de cette archéologie de la Caraïbe, nous allons parler d'astronomie médiévale et des tables astronomiques rédigées en castillan sous le règne d'Alphonse X, puis traduites en latin à Paris et diffusées ensuite dans toute l'Europe. Pour comprendre le succès de ces tables alphonsines, il faut d'abord expliquer ce qu'est une table astronomique. Mathieu Husson, admettons que nous sommes aujourd'hui des astronomes médiévaux en herbe et qu'on consulte un grimoire, un manuscrit. On ouvre les pages de ce manuscrit qui propose des tables astronomiques. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux ?
Bien, tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Et si on ouvre un manuscrit médiéval astronomique dans un contexte universitaire, on va tomber sur de très grands tableaux de nombres, des pages et des pages remplies de tout un tas de types de nombres et de quantités différentes. Et en fait, ces nombres sont les outils pour calculer les horoscopes et les éphémérides, c'est-à-dire les positions des planètes, au sein de calculs qui sont plus ou moins compliqués, mais quand même relativement ardus.
Il y a plein de fonctions en fait essentielles à l'époque pour ces tables astronomiques. Est-ce que vous pouvez nous faire une liste de toutes ces fonctions-là que pouvaient avoir ces tables astronomiques ?
Alors, le principal usage des tables astronomiques, ça va être de calculer des horoscopes et des éphémérides qui vont être utilisés pour l'astrologie. Différents milieux vont être attentifs à ces données astronomiques et astrologiques pour leur pratique, les médecins, mais aussi dans les milieux tout simplement de cours et les milieux politiques. C'est aussi un outil très important pour le calcul du calendrier. Avec les astronomes qui, à partir du XIIIe siècle en Europe, commencent à essayer de convaincre de plus en plus l'Église qu'une réforme est nécessaire et importante et qu'il faut se fier aux tables astronomiques et au savoir astronomique pour établir cette réforme.
Il y a aussi une dimension de gestion de la chronologie. Ça aussi, c'est des choses qu'on a un petit peu oubliées, mais rappelez-nous cette importance qu'avaient les aires chronologiques à cette époque médiévale.
Alors exactement, au sein des tables astronomiques, on va conserver un certain nombre de positions des planètes et des astres pour des aires fixes. Et ça construit une sorte de chronologie de l'histoire du monde. Très souvent, on a le déluge, parfois même la création du monde parmi ces aires. Mais on a aussi quelques grands rois anciens, David, Salomon,
Alexandre,
César. Et c'est un des éléments d'ailleurs qui va stimuler le roi Alphonse X pour créer ses propres tables, c'est qu'il va pouvoir du coup lui-même s'inscrire dans cette histoire du monde.
Oui, lui il a une ambition et on en parlera bien sûr avant d'arriver à Alphonse X et aux raisons pour lesquelles lui s'inscrit dans cette démarche de production de nouvelles tables astronomiques. On peut peut-être rappeler les principales tables astronomiques qui prévalent au moment où lui décide d'en rédiger de nouvelles. Quelles étaient-elles? D'où venaient-elles?
Alors, Alphonse X est un roi castillan, donc il est dans la péninsule ibérique, à Tolède. Et donc, on est dans le milieu qu'on appelle Al-Andalus, qui est un contexte où il y a à la fois les chrétiens, les juifs et les musulmans qui collaborent et qui coexistent, plus ou moins pacifiquement. Et c'est vraiment la culture musulmane qui a le monopole et le lead scientifique, en tout cas en ce qui concerne l'astronomie. Et donc, dans le contexte où Alphonse va travailler, il y a essentiellement les tables de Tolède qui sont importantes. C'est des tables qui sont compilées au XIe siècle par un astronome qui s'appelle Azarkiel. et qui font une sorte de synthèse et de aussi ajoutent quelques innovations importantes, mais entre deux grandes tradition d'astronomie médiévale musulmane, l'une qui vient d'Inde et qui est transmise principalement par Al-Khwarizmi, qui est un nom qu'on connaît pour tout un tas d'autres raisons aussi.
Ça a donné algorithme, hein, son
exactement.
Nom.
Exactement. Voilà, ouais. Et c'est aussi lui qui nous transmet l'algèbre, enfin il y a différentes choses. Et puis l'autre tradition qui vient plus de Ptolémée et qui est principalement véhiculé dans les sources arabes par un astronome qui s'appelle Al-Battani, qui vient un siècle après, au Xe siècle, un siècle après Al-Khwarizmi. Et donc, les tables de Tolède font une synthèse spécifique à la péninsule ibérique entre ces deux grandes traditions d'astronomie.
Puisqu'on parle de la péninsule ibérique, on peut peut-être donner des éléments de contexte historique sur le vent qui souffle à cette époque autour d'Alphonse X. On ne va pas faire une émission biographique sur Alphonse X, mais on peut présenter ce personnage dans ce contexte de la péninsule ibérique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Donc Alphonse X est roi de Castille. Il a été précédé par des rois qui étaient assez tournés vers la tâche militaire et la reconquête. Et lui, il a une vision de son rôle et de la place qu'il pourrait prendre dans l'histoire assez différente. Notamment, il vise de devenir empereur du Saint-Empire romain germanique. Alors, rien de moins que ça. Et donc, il essaye pour faire ça de réactiver, en fait, la figure du roi sage, du roi savant. On l'appelle Alphonse X le sage, en général. Donc, il a d'une certaine manière réussi cette opération. Et pour faire ça, étant établi à Tolède, on est vraiment dans cet endroit où juifs, chrétiens, musulmans travaillent depuis en fait plus d'un siècle au moment où il arrive dans cet endroit pour régner, à la traduction, notamment en latin, de l'essentiel du savoir musulman autour de la médecine, de la philosophie, de la physique et de l'astronomie, de l'astrologie. Et donc lui, il continue cette entreprise de traduction qui était faite avant plutôt par les évêques en fait de Tolède et qui traduisait vers le latin. Et lui, il décide de faire une traduction en castillan. Et il met beaucoup de ressources dans cette entreprise, à la fois en assemblant les meilleurs savants possibles, mais aussi en assemblant les meilleurs artistes, les meilleurs scribes, les meilleurs copistes pour produire des manuscrits vraiment de très haute qualité qui après fait circuler en fait dans différentes cours européennes.
Quelques éléments de date. Donc le règne d'Alphonse X dure de 1254 à 1284. Cette rédaction et cette commande finalement des tables astronomiques s'inscrit, comme on l'a suggéré, dans un projet culturel plus global. Est-ce qu'on peut citer d'autres grandes commandes que réalise Alphonse X autour de ces tables astronomiques?
Le principal ouvrage qui est autour de ces tables astronomiques est un manuscrit qu'on appelle maintenant le Libro del Saber de Astrologia. Donc c'est des textes qui sont écrits dans les années 1260, 1270. Et dans ce Libro del Saber, il y a de nombreux textes sur les instruments astronomiques, des textes aussi d'astrologie. Vraiment, ça c'est quelque chose peut-être que d'autres collègues avant moi ont répété quand on parle d'astronomie et de sciences au Moyen-Âge. Mais astronomie et astrologie sont vraiment deux sciences très articulées l'une à l'autre et en fait même quasiment indissociables. L'une étant plus porté du côté mathématique, l'autre plus du côté de l'interprétation, mais elles sont vraiment très très liées. Et Alphonse a vraiment lié les deux de manière très forte.
Et oui, puisque cette notion d'astrologie, cette notion d'horoscope, comme vous le disiez, a des influences conséquentes, majeures, sur les choix politiques qu'on fait à l'époque. On va regarder les astres et on va s'en référer aux astres pour prendre des décisions.
Exactement, et il y a aussi une force symbolique assez importante pour l'astrologie, et en fait au long de la fin du Moyen-Âge, notamment dans le contexte latin, elle va prendre de plus en plus d'importance culturelle. Et les astronomes et les astrologues, notamment de cour, vont s'en servir de plus en plus pour essayer d'établir en fait leur influence, leur réseau de pouvoir.
Pourquoi Alphonse X, on a déjà révélé un petit peu les raisons pour lesquelles il commande ces tables astronomiques, mais pourquoi ça a une importance aussi scientifique à cette époque-là de proposer une nouvelle version de ces tables astronomiques, alors qu'on a des modèles qui sont là, voilà, le modèle de Ptolémée, ça dure quand même, ça a duré un petit millénaire. Pourquoi il faut mettre à jour tous ces savoirs?
Alors, je veux insister juste une dernière fois sur cette importance politique. Alphonse, il réactive le lien entre astronomie, astrologie, pouvoir politique d'une manière assez forte. Et c'est quelque chose qui va avoir une importance tout au long de l'histoire et de la réception des tables alphonsines en latin. Sur le côté scientifique, en fait, dès Ptolémée, Ptolémée signale à ses lecteurs qu'il va falloir en fait faire des mises à jour de son travail. Qu'il a fait les mesures et ses modèles de la manière la plus précise qu'il pouvait, mais qu'il est à peu près sûr qu'il y a des erreurs qui restent, qui vont s'accumuler, qu'il y a des mouvements qu'il n'a pas encore perçus. Mmh. Et donc, il va falloir faire des mises à jour. Les astronomes, en fait, qui succèdent à Ptolémée, écoutent ce qu'il a dit. Et il y a notamment un mouvement que Ptolémée avait décelé et qui est très lent et assez difficile, du coup, à calibrer. C'est celui de la précession des équinoxes. C'est-à-dire un mouvement où les équinoxes se décalent petit à petit par rapport au fond des étoiles. C'est quelque chose qui est important parce que la date de Pâques, par exemple, est définie par rapport à ça. Et ça décale petit à petit toutes les saisons par rapport au calendrier. Donc c'était un phénomène important à remesurer et à recalibrer. Et c'est un des éléments que les astronomes alphonsins d'Alphonse de Castille ont travaillé. Et ils ont aussi essayé de réévaluer, de regarder d'autres sources, de prendre les meilleurs paramètres possibles pour tous les éléments de la théorie pour reconstruire leur table.
Qui sont ces astronomes? Si on a des noms de ces personnes qui vont s'atteler à cette tâche colossale?
Alors, on a plusieurs noms. On en a notamment deux qui se nomment en fait eux-mêmes quand ils présentent leur travail au roi. Donc, il nous reste pas les tables alphonsines en castillan, il nous reste les canons, les textes d'instruction de ces tables en castillan. Et en fait, ces deux savants juifs dont on a les noms, qui s'appellent Yehuda ben Moshe et Isaac ibn Sid. Et donc, c'est ces deux savants qui expliquent qu'ils se sont attelés à cette tâche de compiler les sources, de faire des observations et de rédiger des nouvelles tables et des nouveaux canons.
Vous le dites, Mathieu Husson, les tables originales ont disparu, les tables en castillan ont disparu. Si on les connaît, c'est grâce au canon, au mode d'emploi de ces tables astronomiques. Alors, on va parler de ces canons. Si ces tables ont été rédigées sous le règne d'Alphonse X, au XIIIe siècle, les canons arrivent un peu plus tard, au début du XIVe siècle, à Paris. Voilà, à nouveau, qu'est-ce qu'on peut dire de la genèse de ces canons-là?
Alors, là, il y a une...
Il y a un hiatus
et il y a un petit mystère historiographique qui a été important et qui continue probablement de l'être aujourd'hui. Entre la version des tables alphonsines qu'on connaît en castillan via ces canons et la version des tables alphonsines qu'on a en latin 50 ans plus tard à l'Université de Paris. Donc, on ne connaît que les canons alphonsins et castillans et ils décrivent une certaine théorie astronomique. Et 50 ans plus tard... par le témoignage de différents astronomes parisiens, notamment Jean de Linière, Jean de Mur ou Jean de Saxe, on voit ces astronomes qui, eux, consultent manifestement des tables et pas les canons. Ou du moins, ils disent qu'il y a des textes, mais qu'ils ne parviennent pas à les lire. Donc peut-être qu'ils voient des textes en castillan ou dans une autre langue, mais pas en latin. Et donc, ils ont les tables. Et ces tables-là, ils les ont sans les manuels d'instruction. Et ils écrivent, du coup... les manuels d'instruction qui vont avec les tables, en essayant de comprendre cette nouvelle astronomie, la manière dont elle fonctionne, et notamment cette théorie nouvelle que l'astronomie propose pour le mouvement de précession des équinoxes. Et donc, on a une sorte de trou dans les sources, parce qu'il y a une diffusion des tables en castillan qu'on a surtout dans des manuscrits d'apparat, des manuscrits de présentation, et on en a très peu de ces manuscrits, en fait, qui sont restés. Et ensuite, on a ces tables qui sont là dans un milieu universitaire avec des manuscrits qui sont tout à fait différents parce que c'est des outils d'enseignement, c'est des outils de praticiens, d'astronomes qui sont intéressés à des aspects différents, en fait plus au contenu astronomique là. qu'à la beauté du document.
Mathieu Husson, vous abordez une question très intéressante, c'est cette idée que les manuscrits en eux-mêmes ornés, joliment ornés, étaient des objets diplomatiques qui circulaient en Europe, qui étaient des cadeaux, en fait, finalement, que pouvait faire la couronne d'Espagne à d'autres couronnes. Ça a son importance, quand même, pour comprendre comment ces textes-là arrivent entre les mains de ces savants à Paris.
Exactement, et on ne sait pas... On ne sait pas mesurer, on a cherché dans le projet Alpha que vous mentionnez précédemment, vraiment écumé la plupart des grandes bibliothèques parisiennes, européennes. Pour chercher un petit peu quels pourraient être des intermédiaires. Et vraiment, on n'a pas trouvé de manuscrits qui puissent nous permettre de documenter ce qui s'est passé dans ces 50 années entre 1272 et 1320, ce qui est certain, c'est qu'on a d'abord cette diffusion plutôt en manuscrits de présentation et diplomatiques, manuscrits produits probablement plus souvent par le scriptorium d'Alphonse lui-même, et après des manuscrits qui sont des manuscrits universitaires et qui sont dans un milieu différent. Alors, il y a des contacts, évidemment, entre les milieux de cours et les milieux universitaires, mais on n'a pas trouvé de documents qui soient exactement ces liens.
Écoutons un extrait du canon de Jean de Saxe, rédigé en 1327, qui n'est ni plus ni moins, comme vous le disiez, que le mode d'emploi des tables alphonsines. La lecture vous est faite par Nicolas Berger, c'est l'archive de Sciences Chrono.
Cherchez d'abord le mouvement des auges et des étoiles fixes, comme il a été dit pour les moyens mouvements, mais sans prendre aucune racine, et le mettre à part. Cherchez ensuite le mouvement d'accès et de recès de la huitième sphère, auquel on ajoute la racine du mouvement de la huitième sphère. Si cela produit des signes, on les transforme en degrés, qu'on ajoute aux autres degrés le cas échéant. On entre ensuite dans la table de l'équation du mouvement d'accès et de recès, et on cherche dans la colonne des entrées le chiffre des degrés ainsi obtenus. On ne les trouvera que si ce chiffre est inférieur à 90, parce que la colonne des entrées ne dépasse pas 90. Si le chiffre est supérieur à 90, on le compte à rebours. On cherche donc le chiffre des degrés dans la colonne des entrées, en face duquel on trouve un nombre constitué de degrés, de minutes et de secondes, qu'on écrit sur deux cédules. Si le mouvement d'accès et de recès comporte des minutes en plus des degrés, avec lesquels on est déjà entré dans la table d'équation, on y entre à nouveau avec une unité de plus. Si on est d'abord entré avec 67 degrés et qu'il y a des minutes en plus des 67 degrés, on entre à nouveau avec 68 degrés et on relève l'équation correspondante qu'on écrit à part. On voit si la première équation, celle qui a été relevée en premier lieu, est plus grande ou plus petite que la deuxième. Et on soustrait la plus petite de la plus grande de façon à avoir la différence entre les deux équations. On prend ensuite la partie proportionnelle de cette différence, en proportion par rapport à 60, du nombre des minutes en plus des degrés.
Voilà un extrait du canon de Jean de Saxe. Pour la petite histoire, la musique que vous entendez qui accompagne cette lecture est tirée des Cantigas de Santa Maria, cette œuvre donc musicale commandée aussi par Alphonse X dans ce vaste projet culturel intellectuel qui était le sien. Mathieu Husson, vous allez devoir nous aider un petit peu à décrypter ce mode d'emploi qui est pour le moins touffu. Qu'est-ce qu'on entend déjà quand on entend ce texte-là, cet extrait du canon?
Peut-être la première chose qu'on entend, c'est à la fois un foisonnement de différents termes techniques qu'on ne va pas tous expliciter là, et aussi quelque chose d'assez fort, je trouve, sur la matérialité de l'utilisation des tables. On parle des colonnes qui s'arrêtent à tel nombre, qu'il faut lire dans un sens ou dans l'autre. On parle de recopier certains nombres sur des cédules, c'est-à-dire des petits tablettes où on peut écrire les termes et les garder pour plus tard, les effacer, retravailler dessus. On parle de la manière, même de la fabrication des nombres qui sont composés avec des degrés, des minutes, des secondes, etc. Donc c'est vraiment un texte qui est très proche de la pratique concrète de l'astronomie. Et ça, c'est un premier élément que je voudrais souligner.
On se rend compte finalement du haut niveau de technicité qu'avaient ces astronomes pour utiliser ces tables qui étaient en elles-mêmes complexes.
Exactement. On a là une toute petite partie, et le début en fait, du long calcul qui mènera à pouvoir construire un horoscope. Peut-être... juste expliquer quelle partie du calcul on a en explicitant un ou deux petits termes techniques qu'on a rencontrés. Le texte commence par parler du mouvement des auges. Donc les auges, c'est un terme aux en latin. Aujourd'hui, on traduirait ça en langage d'astronomie moderne par apogée. Mm-hmm. Donc c'est un point de repère vraiment, c'est le point où la planète est le plus éloignée de la Terre. Rappelons du coup qu'on est dans une cosmologie
géocentrique,
donc exactement, la Terre est au centre et tout tourne autour. Ouais. Et donc c'est un point de repère vraiment important qui bouge de la même façon que les étoiles, c'est-à-dire que les auges des planètes ont le même mouvement que les étoiles. Donc en fait, ce qu'on est en train de calculer là, c'est la façon dont les étoiles se déplacent. Donc on est en train de calculer ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la précession des équinoxes. Il y a différentes étapes dans ce calcul, et sans rentrer trop dans les détails, on voit, on peut lire au travers de ce calcul le fait que dans l'étape que ces astronomes parisiens utilisaient, le mouvement des étoiles qui est proposé est un mélange en fait des deux mouvements qui existaient avant Alphonse. Deux théories étaient concurrentes. Une théorie qui venait de Ptolémée qui disait que les étoiles se déplaçaient à une vitesse constante, vraiment la précession, et une théorie qui s'appelle de trépidation ou de mouvement d'accès et de recès, on a entendu aussi cette expression, où en fait il y a des phases du temps où les étoiles accélèrent et se déplacent dans une direction, et d'autres phases où les étoiles ralentissent et puis se mettent à bouger dans l'autre direction. Et en fait, les astronomes alphonsins ont fait un mélange de ces deux mouvements, parce qu'au moment où ils ont fait leur table, aucun des deux mouvements ne permettait de rendre compte de la position qu'on observait pour les équinoxes. Donc ils ont fait un mélange des deux. Et c'est cette partie du calcul qu'on a là avec ce texte.
Ce qu'on perçoit aussi, c'est qu'il y a une base 60 qui est utilisée dans le cadre de ces tables alphonsines, une base sexagésimale. Ça a son importance aussi. Décrivez-nous l'importance qu'a cette base-là.
Alors, la base 60, c'est quelque chose qui est très ancien en astronomie, puisque ça vient tout droit des astronomes babyloniens, donc très très longtemps avant, et qu'on la voit toujours aujourd'hui dans notre façon de compter les minutes et les secondes, vient complètement de là. C'est du coup un système de nombres qui a été conservé ensuite par les astronomes hellénistiques, Hipparque et Ptolémée notamment. Et donc on le conserve, il est assez pratique pour les astronomes parce que il permet d'avoir d'une manière consistante à la fois des mesures de temps et des mesures de degrés d'arc. Et les astronomes alphonsins, en fait, ils vont pousser assez loin l'utilisation de cette base 60. C'est une des caractéristiques, d'ailleurs, techniques de leur table et peut-être un des éléments qui en a assuré un certain succès. C'est qu'ils vont vraiment systématiser complètement l'usage de la base 60 dans le calcul du temps. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas compter le temps dans les calculs en utilisant des calendriers, comme par exemple les tables de Tolède précédemment utilisaient le calendrier arabe. Donc les astronomes latins devaient d'abord convertir leurs dates du calendrier julien en calendrier arabe pour pouvoir utiliser les tables. Eux, ils ont un système où on n'utilise que des nombres entiers de jours, et ces nombres entiers sont exprimés de façon sexagésimale. Donc, ils ont un système beaucoup plus, entre guillemets, quand on est à l'intérieur du calcul, on n'a pas besoin de se soucier d'éléments qui ne sont pas astronomiques, parce qu'on est entièrement qu'avec des nombres en base 60. Et ça, c'est une cohérence qui était importante pour eux.
On parle du succès, pendant des siècles, de ces tables alphonsines. On évoquait le fait que, on n'a pas le texte original des tables alphonsines, mais le canon en latin. Ces canons en latin dont on parlait, qui ont été rédigés par des astronomes parisiens, mais qui ne sont pas cantonnés à la sphère parisienne. Ça a voyagé partout en Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette diffusion de ces canons et donc, par la diffusion de ces canons, des tables alphonsines, de la diffusion des tables alphonsines elles-mêmes?
Alors ça, c'est un sujet vraiment passionnant qui nous a beaucoup occupés dans le cadre du projet Alpha. Pour résumer, on peut dire que si on veut suivre la progression... Là, la première chose à avoir en tête, c'est que l'Université de Paris, à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle, c'est vraiment un des centres intellectuels européens les plus importants. Les meilleurs esprits du temps viennent dans cette université pour étudier, notamment à cause du prestige de sa faculté de théologie. Mais l'astronomie est enseignée à la faculté des arts et en fait elle bénéficie en quelque sorte aussi du prestige général de l'Université de Paris. Et donc ce qui se passe à l'Université de Paris, étant donné qu'il y a des intellectuels de toute l'Europe qui viennent étudier là, c'est un endroit de diffusion assez fort. Ça c'est le premier élément. Le second élément, c'est que l'institution universitaire, qui s'est créée dès la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle en Europe, d'abord à Paris, à Bologne et à Oxford, en fait, un certain nombre de cités, de rois, vont assez vite comprendre que c'est un instrument de pouvoir important. Parce que, par exemple, la faculté de théologie de Paris, elle a vraiment un rôle de régulation. Elle peut dire à certains rois, non, vous ne pouvez pas faire ce mariage, ce n'est pas possible. Et du coup, ça a vraiment une importance forte. Et donc, c'est une institution qui, du coup, se développe et se répand dans différentes villes d'Europe au fur et à mesure que les cités grandissent. Et en fait, là, si on suit la diffusion des tables alphonsines, on suit aussi en même temps, en grande partie, la diffusion de l'institution universitaire. Donc, les premiers centres vers lesquels ça se diffuse, c'est d'abord en Angleterre, vers Oxford, et aussi à Erfurt, parce qu'il y a un... Bon, pour des raisons politiques, l'Université de Paris, au milieu du XIVe siècle, il y a un schisme qui se crée. Il y a un moment où il y a plusieurs papes, et ceux qui ne sont pas du bon pape, ils doivent fuir l'Université de Paris. Et ils vont notamment en Europe centrale, et donc à Erfurt. Et l'expérience parisienne, en fait, c'est-à-dire de ces astronomes parisiens qui, en 1320, ont découvert des nouvelles tables et se sont dit, mais en fait, ces tables, c'est la solution aux questions qu'on se pose. Il faut qu'on les acclimate à notre manière de travailler. Elle se reproduit dans ces différentes villes. Et donc, on a une astronomie alphonsine qui est propre à Oxford, qui se développe. Et avec, par exemple, quelque chose que, du coup, on appelle les tables d'Oxford, qui, après, sont amenées à se diffuser. Et cette chose-là se passe aussi à Erfurt, se passe aussi à Prague, se passe aussi à Vienne, se passe aussi à Cracovie, se passe aussi à Bologne. Et on a dans chaque lieu, des milieux d'astronomes qui s'approprient chacun à leur manière. Parfois, certains font plus de textes théoriques, parfois, certains font plus d'instruments, d'autres recalculent complètement, reformatent les tables. Mais chacun s'approprie l'astronomie alphonsine à sa manière.
Ça signifie que, du coup, ces tables alphonsines, c'est une espèce de socle pour une astronomie européenne qui naît à partir de ce moment-là et qui va permettre des révolutions comme la révolution copernicienne plus tardive.
Exactement. On a, je vois que le temps passe, on a là quelque chose, un langage commun qui se crée pour les astronomes à travers l'Europe, qui font que même s'ils n'ont pas tous exactement la même manière de calculer, ils calculent finalement les mêmes positions. Leurs horoscopes et leurs éphémérides présentent le même ciel. Et au XIVe et au XVe siècle, l'Europe est traversée vraiment par de nombreuses crises. Par exemple, politique, la peste, crise politique, etc. Et donc, il y a probablement une sorte de besoin d'avoir certaines choses qui ne changent pas. Et les astronomes font beaucoup d'efforts durant ces deux siècles, en fait, pour ne pas changer les positions qu'on calcule, que le ciel reste stable. Et c'est une valeur qu'on voit même exprimée parfois directement par les astronomes eux-mêmes en disant qu'ils font vraiment cet effort de conserver cette stabilité et que c'est quelque chose d'important pour eux de réussir ça.
C'est très beau cette idée d'une instabilité de la Terre qui est compensée par une stabilité du ciel qu'entretiennent savamment ces astronomes du Moyen-Âge. Mathieu Husson, pour conclure, voilà, les tables alphonsines, elles tombe dans le registre de l'histoire, on peut dire, à partir de quand, que c'est la révolution copernicienne qui va les mettre un petit peu sur le bord.
Alors c'est quelque chose qui se produit effectivement depuis la fin du XVe et beaucoup au XVIe siècle. Il y a, vu qu'il me reste peut-être que 2 minutes, je voudrais...
Même pas 2 minutes, 20 secondes.
20 secondes. Là, je voudrais souligner 2 éléments par rapport à ça. Le premier, c'est ce qu'on a dit au début de Alphonse et du lien qu'il crée entre politique et astronomie. En fait, au XVe et au XVIe siècle, on voit que ce lien, il se réactive vraiment de manière très très forte. Parce que, par exemple, être copernicien ou ne pas être copernicien, c'est lié aussi à être protestant ou être catholique ou être dans les royaumes allemands ou être plutôt dans les royaumes italiens et espagnols, etc. Et en fait, ça devient un des marqueurs, l'astronomie, de aussi choix politique fort. D'un point de vue plus technique, effectivement, Copernic travaille avec les tables alphonsines. C'est sur cette base, en étudiant les chiffres vraiment des tables alphonsines, on a les notes de Copernic qu'il a prises lui-même sur son exemplaire, et on peut suivre ce qui se passe, comment il les travaille. Et c'est sur cette base qui produit sa transformation. Mais les personnes qui calculent les horoscopes, qui calculent les éphémérides, ils gardent l'astronomie alphonsine pour une bonne partie de leur calcul pendant une grande partie du XVIe siècle. Et vraiment, la coupure se fait avec Tycho Brahe et une nouvelle série d'observations.
Et on parlera un jour, bien sûr, de Tycho Brahe. Merci beaucoup à vous, Mathieu Husson, d'être venu nous expliquer l'importance de ces tables alphonsines dans l'histoire de l'astronomie européenne.
Otro sonce bonito que ve un San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré. Y contarte las cosas que no te conté.
¿Te parece a mi crush?
Y tirarte la foto que no te tiré.
Hacho, bro, es lindo, déjame traerte una foto.
Ey, tengo
C'était MFA, David Tirar Mas Fotos par Bad Bunny dans Science Chrono sur France Culture. C'était notre choix musical du jour. On va voir pourquoi, pour ouvrir cette page archéologique qui vient, puisqu'on quitte l'Europe pour nous diriger vers la Caraïbe avant la colonisation.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Avant lui, des sociétés insulaires peuplaient la Caraïbe depuis des millénaires. Si elles restent mal connues du grand public, elles ont cependant développé des structures politiques, religieuses, culturelles, denses et ramifiées dans les grandes et petites Antilles depuis plus de 7000 ans. Pourquoi nos connaissances concernant ces sociétés, qu'elles appartiennent à la culture Taïno ou Kalinago, sont-elles encore partielles? Quels effets la colonisation a-t-elle eu sur nos représentations de ces aires culturelles caribéennes? Et comment l'archéologie nous conduit-elle aujourd'hui à mieux appréhender la richesse et la complexité de cette mosaïque de communautés de la Caraïbe précoloniale? Une exposition qui a lieu en ce moment à la Martinique apporte des éléments de réponse à ces grandes questions, et il en sera évidemment question aujourd'hui. Avec vous, André Delpuech, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, conservateur général du patrimoine, chercheur associé au centre Alexandre Coiré, commissaire de cette exposition aux origines de la Caraïbe, Taïno et Kalinago, qui se tient jusqu'au 12 avril 2026 à la Martinique, à la Fondation Clément, une exposition en partenariat avec le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ces sociétés amérindiennes qui peuplaient la Caraïbe avant la colonisation espagnole, avant de parler, et la colonisation européenne bien sûr, avant de parler de cette archéologie de la Caraïbe, nous voulions vous faire entendre une voix, celle de Leïla Chahid, diplomate et déléguée générale de la Palestine en France, puis auprès de l'Union européenne, qui s'est éteinte cette semaine à l'âge de 76 ans. Le 2 octobre 2000, l'ami Vincent Charpentier la recevait dans le Salon Noir sur France Culture. Leïla Chahid parlait alors de l'importance de l'archéologie en Palestine.
Nous considérons que la Palestine, et c'est ça sa richesse, c'est ça son importance, elle est un lieu de convergence de toutes les civilisations. Et que nous sommes fiers d'être aujourd'hui les citoyens habitant ce pays, et j'espère un jour cet État, qui représente cette multiplicité. Nous sommes une société laïque, nous avons des musulmans, des chrétiens, des juifs, des athées, et que nous serons très heureux d'avoir une constitution qui permet d'intégrer toutes ces entités, et surtout nous serons très heureux de trouver dans la recherche archéologique la preuve de cette diversité, qui est d'ailleurs le seul moyen d'une réconciliation réelle de toutes les civilisations, donc de tous les peuples, donc de tous les États. C'est ça la paix. La paix, c'est de faire la paix avec ce qu'on est. Et je voudrais beaucoup que l'archéologie puisse être débarrassé, délivré de la bataille nationaliste.
André Delpuech, l'archéologie comme moyen de réconciliation entre les peuples, entre les nations, ça vous parle, j'imagine?
Ça me parle, et c'est en plein dans un séminaire que j'anime au Quai Branly avec Anne Lehurf, ma collègue, où on voit malheureusement que souvent l'archéologie peut être instrumentalisée, comme vient de le dire Leïla Chahid, par des nationalismes, par des idéologies, par des religions. Et s'il y a un terrain qui est tellement sensible, c'est Palestine-Israël, où là on voit bien que l'archéologie n'est absolument pas neutre, contrairement à ce qu'elle devrait être. Mmh. On va aller chercher des origines, et qui dit parler d'origine, dit de qui étaient les premiers, enfin c'est une espèce de course qu'on retrouve dans le monde entier, une archéologie qui peut être dévoyée.
Et c'est intéressant parce qu'il y a un curieux écho finalement avec notre sujet du jour, cette notion d'origine de la Caraïbe, aux origines de la Caraïbe, c'est le titre de l'exposition dont vous êtes le commissaire. On va en parler, bien sûr, on va, après cet hommage à Leïla Chahid, on va parler, on va rentrer dans notre sujet, à quel constat, à quelle problématique de départ vient répondre cette exposition et ce travail muséal, muséographique?
Elle répond à une sorte d'impensé de l'archéologie et de l'anthropologie française et même au-delà, qui est que, passez-moi l'expression, on a un peu zappé que la Caraïbe, les îles des Antilles, ont été peuplées pendant des millénaires. Alors tout le monde connaît l'histoire de Christophe Colomb, qui débarque là aux Bahamas un beau jour d'octobre 1492, mais souvent on est resté sur des visions très condescendantes, très caricaturales, liées aux Espagnols, puis plus tard aux colonisateurs français et anglais, présentant ces sociétés comme très primitives, et qui sont passées un peu aux oubliettes de l'histoire, puisque 30 ans plus tard, on arrivait au Mexique avec les Aztèques, un peu plus tard les Incas au Pérou, qui finalement ont fait qu'on a oublié que pendant 30 ans, tout se joue dans cet espace caribéen, et surtout qu'il y a là des gens qui vivent là depuis des millénaires.
Ça, c'est intéressant, vous parlez des Mayas, des Aztèques, des Incas, qui sont très connus pour le coup dans la culture occidentale populaire, même on perçoit, on voit, on s'imagine ce que pouvaient être ces sociétés-là. En ce qui concerne les sociétés caribéennes, pas du tout, alors que chronologiquement, c'est elles qui ont été les premières à être colonisées par les Espagnols. Comment expliquer cet impensé-là, cette cette invisibilité-là?
Elle revient à plusieurs raisons. Bien sûr, il y a ce fait que ces peuples ont disparu, ou quasiment. On verra qu'ils ont survécu au travers, d'ailleurs, de populations, mais aussi d'un certain nombre d'héritages transmis dans les sociétés créoles. Mais ces sociétés, comme celle d'Amazonie, et comme on pourrait dire ça ailleurs dans le monde, sont des sociétés du monde végétal qui construisaient leurs monuments en bois, et dont les traces étaient beaucoup plus fugaces, beaucoup plus éphémères que les statues en pierre ou les monuments en pierre. J'aime bien parler d'une forme de syndrome des trois petits cochons, quoi.
Expliquez-nous ce syndrome.
Les petits cochons, il y a le premier et le second qui construisent en paille et en bois, et évidemment, c'est détruit par le loup, alors que la pierre résiste. Et dans l'Occident, le mot patrimoine, le mot archéologie, est avant tout lié à du dur, à de la pierre, à des statuettes en or ou en jade et autres, et ces sociétés-là ont produit autre chose, mais pour autant, l'archéologie, justement, révèle complètement les erreurs qu'on a pu commettre et nous dévoile des sociétés très évoluées, très développées.
Quels sont justement les principaux biais ou représentations erronées à éviter quand on monte une exposition comme celle-ci? Quels sont les principes de départ à rappeler?
Il y avait à évacuer une dichotomie qui s'est établie pour la première fois dès le premier voyage de Christophe Colomb et qu'on va retrouver ailleurs dans le monde. C'est le côté des bons sauvages d'un côté, dont les Taïnos, les habitants des Grandes Antilles, vont devenir le sort de prototype, et les sauvages irrécupérables, je mets sauvages évidemment entre grands guillemets, cannibales, etc., qui eux sont irrécupérables, passez-moi l'expression, et qu'il va falloir détruire. Et cette dichotomie va vraiment rentrer dans la tête des conquistadors, va être véhiculée aussi, y compris dans les livres scolaires. Je m'amusais, pour préparer cette exposition, à voir des livres scolaires d'il n'y a pas si longtemps, à propos de la Caraïbe. Il y a les gentils Arawak, Taïno, dans les Grandes Antilles, vraiment, presque peace and love. Mmh. Et à côté de ça, les Caraïbes cannibales. Et d'ailleurs, on pense que le mot Caraïbe et cannibale, Caribe, cannibe, viennent de la même étymologie. Et donc ça, il faut chasser ces visions simplistes de notre tête.
Autre vision simpliste, l'idée que cet archipel, ces îles, communiquaient finalement assez peu entre elles, qu'il y avait assez peu de monde, voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler.
Alors je préfère parler d'archipel que d'île, parce que la notion d'île, là aussi dans notre schéma de terrien souvent, c'est une frontière, la mer est une frontière, et on est isolé dans son île. Alors que là, nous avons affaire à des grands navigateurs, avec des grandes pirogues qui font 15-20 mètres de long, creusées dans un tronc d'arbre, et ils naviguent dans l'espace caribéen très facilement, et donc la mer est un lien. Et chaque île, en plus, dans la Caraïbe, c'est relativement facile de naviguer, puisque quasiment d'une île à l'autre, on voit l'île suivante. Et toutes les preuves de l'archéologie, la documentation qu'on a, les résultats d'archéologie au travers du commerce des objets et des matériaux montrent que c'est un grand archipel. Malheureusement, la colonisation a fracturé cet espace. Telle île était devenue espagnole, telle autre est devenue anglaise, telle autre est devenue française. Ce qui fait que les gens de la Guadeloupe ou de la Martinique vont aller plus facilement en France, hexagonale, et finalement pas connaître Porto Rico ou le Venezuela qui sont à 500 km d'eux.
Alors on va parler de cette population caribéenne et de la longue, le long établissement finalement de population et de société dans cet espace caribéen. Qu'est-ce qu'on sait du premier peuplement, du tout premier peuplement de la Caraïbe, même si ce sera pas central dans notre discussion, il faut bien situé dans le temps.
On a la preuve de peuplements anciens qui remontent environ à 4 à 5 000 ans avant notre ère à Cuba ou dans l'actuel Haïti Saint-Domingue, enfin ce qu'on appelait autrefois Hispaniola, que Christophe Colomb a baptisé Hispaniola, et qui viennent sans doute ou d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Mais je pense un peu comme on l'a fait pour les Amériques où pendant longtemps on disait c'est pas plus vieux que 12 000 ans. Aujourd'hui il y en a des dates à 25 000, à 30 000 parce qu'on les cherche. Je suis persuadé que dans la Caraïbe on va trouver plus ancien parce que naviguer dans la Caraïbe depuis les continents, c'est pas si loin que cela, et ça reste à trouver. Mais on a ces premiers peuplements, en tout cas, qui remontent à ces cinquième millénaire, sixième millénaire.
Mais c'est encore assez lacunaire, d'un point de vue archéologique, on n'a pas encore de données trop importantes concernant ces tout premiers peuplements. Peut-être que ça commence à s'épaissir pendant le second peuplement, ces données-là, ces connaissances archéologiques, qu'est-ce qu'on peut dire de ça?
On a un moment clé, effectivement, qui va se passer vers le 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, où des sociétés de la région de l'Orénoque, de la vallée de l'Orénoque, ont développé une culture très florissante, qu'on appelle la culture de Saladero, vers 2500 avant Jésus-Christ, comme on en trouve ailleurs en Amazonie. On sait maintenant que l'Amazonie est une terre incroyablement riche et ancienne de peuplement et de civilisation. Et ces cultures de Saladero, vers 500, où ces peuples faisant la céramique Sylvie de Saladero, vont prendre la mer et s'embarquer depuis Trinidad et remonter l'arc des Petites Antilles, gagner les îles Vierges, puis Porto Rico et l'actuelle République dominicaine. Et là, c'est vraiment une expansion assez rapide, en un ou deux siècles, à l'échelle archéologique. Et ces gens-là vont apporter deux choses fondamentales. Bien sûr, une céramique très belle, avec l'exposition présente des vases, des adornos.
C'est vraiment dommage que la radio n'ait pas l'image.
Magnifique, jouant sur des couleurs blanc et rouge, montrant une grande technique céramique. Mais surtout, ils vont apporter avec eux l'horticulture. Et un tas de plantes, on l'a oublié, ça, que l'ancien monde ne connaissait pas et que Colomb et ses conquistadors vont découvrir. À savoir le manioc, le maïs, la patate douce, le tabac, etc., etc. On pourrait citer, à tel point que parfois, quand je fais des conférences, notamment pour le jeune public, je leur pose la question, qu'est-ce qu'on mangeait en Europe avant que l'Europe ne rencontre l'Amérique?
Pas grand-chose, en tout cas, beaucoup de choux.
Pas de pizza avec de la tomate, en tout cas.
Ça, c'est certain. Parlons de cette transition, quand même, durant ce peuplement par les sociétés de culture de Saladero. On passe d'une extraction terrienne, forestière, à un espace plus tourné vers la mer. Comment ça se traduit dans les vestiges matériels, cette transition-là qui s'opère?
C'est passionnant et justement, c'est un travail sur lequel tous les archéologues de la région travaillent. C'est comment des sociétés, effectivement, de la forêt tropicale amazonienne, du fleuve, l'Orénoque, c'est quasi l'Amazone, on est sur ces grands fleuves de l'Amérique du Sud, vont s'adapter au milieu insulaire. Ça se voit notamment dans les fouilles, au travers, évidemment, d'une ressource marine très utilisée, les poissons, la pêche, les coquillages. On a aussi des mammifères marins, des lamantins, etc. Donc, il y a vraiment une grande consommation de ces ressources marines. Et ce qui va être aussi passionnant pour nous, c'est de voir y compris une adaptation dans les matériaux pour faire des outils, des haches avec la lèvre du lambi, cette grosse conque qu'on retrouve dans les espaces, mais aussi un tas d'amulettes, de sculptures, de têtes sculptées dans des coquillages qui font partie de l'originalité de cette culture. Et l'exposition montre parfois des pièces toutes petites. J'ai souvenir d'un petit requin qui fait environ 2 cm de long qu'on a trouvé lors de fouilles qu'on faisait en Guadeloupe quand j'étais en poste là-bas comme archéologue. C'est des petits bijoux mais en coquillage, et ça inspire, et on voit aussi toute la qualité de ces civilisations, entre leur céramique, leur production aussi lapidaire. On retrouve, et l'archéologie le montre, une utilisation de ressources de pierres semi-précieuses qui vont voyager sur des centaines de kilomètres. On a des pièces qui viennent d'Amazonie, on a des pièces qui viennent des Grandes Antilles, qui prouvent parmi tous les éléments qu'on a, une intense circulation entre les îles.
Échanges constants aussi entre le continent et cet espace.
Et réciproquement.
L'archipel. Comment on passe de ce second peuplement de culture de Saladero à ces Taïnos dont on parle dans cette exposition, dont vous parlez dans cette exposition? Est-ce qu'il y a une transition lente? Comment décrire finalement l'émergence de cette unité culturelle-là baptisée Taïno?
Les sociétés dites de Saladero sont déjà des sociétés très sophistiquées. On évoque même si l'archéologie, il faut être prudent avec l'archéologie, on parle déjà de chefferie. Toujours est-il qu'on va avoir d'abord, à partir du 7e, 8e siècle de notre ère, une autre expansion, une poursuite de l'expansion de ces peuples horticoles qui vont se gagner l'ensemble de Hispaniola, la Jamaïque, Cuba et les Bahamas. Et là, à partir du 8e siècle, en particulier à Porto Rico, un petit clin d'œil à Bad Bunny, à Porto Rico, on va voir se développer à partir du 8e siècle des sociétés très développées, très hiérarchisées, qui vont devenir ce qu'on appelle les Taïnos. On considère que ce qu'on appelle aujourd'hui les Taïnos, c'est à partir du 12e siècle environ. Et là aussi, ces sociétés, contrairement à ce qu'a décrit Colomb, qui a vu que des gens nus vivant misérablement, en fait, c'est des sociétés très hiérarchisées, avec des caciques à leur tête. Le mot cacique, d'ailleurs, est un mot Taïno, avec une sorte d'aristocratie, les Nitaïno, avec des travailleurs, avec des chamans, et avec une grande densité de population dans ces îles. Là aussi, révisons nos points de vue.
Grande densité de population, on a des estimations du nombre de gens qui habitaient ces îles avant l'arrivée des Espagnols?
C'est difficile à dire, mais on parle, on va dire, pour Hispaniola, de chiffres entre 500, 1 million, 2 millions d'habitants. Vous savez, la démographie préhistorique est quelque chose d'un peu hasardeux. Toujours est-il qu'on a des villages de plusieurs milliers d'habitants, on en trouve les vestiges, on a des grands terrassements, des canaux d'irrigation. Colomb lui-même, et d'ailleurs c'est pour cela qu'il va appeler cette île Hispaniola, Haïti-Saint-Domingue aujourd'hui, c'est parce qu'il voit des champs cultivés à perte de vue. Donc on a une population très dense, mais qui va s'effondrer rapidement, évidemment, par les guerres de conquête et le choc microbien surtout qui va les anéantir.
Quand on parle de cette ère culturelle des Taïnos, on est plutôt dans les Grandes Antilles. Qu'est-ce qui rassemble ces populations? Qu'est-ce qui fait finalement cette unité culturelle des Taïnos?
Les Taïnos, alors, aujourd'hui, les archéologues remettent un peu en cause le mot de Taïno, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir les Taïnos comme une nation Taïno avec des frontières. On va plutôt parler de mosaïque Taïno. Mmh. Il faut bien utiliser...
Une mosaïque de communauté.
Et un mosaïque de communauté qui ont un fond commun au niveau économique, comme je l'ai vu, les cultures du maïs, patates douces, etc. Le jardin tropical, ce qui est devenu le jardin créole. Ils vont avoir un certain nombre de constantes dans ce qui est religion et mythe. On voit qu'ils vont traverser depuis les représentations de la culture de Saladero, qui sont leurs ancêtres, jusqu'au XVIe siècle. Par exemple, le binôme chauve-souris-grenouille, la chauve-souris étant plutôt l'élément mâle, la grenouille l'élément femelle. Bref, on a comme ça des grandes constantes, la pratique du jeu de balle qu'on va retrouver en différents lieux, un jeu de balle très sacré, un peu à l'image du jeu de balle chez les Aztèques ou chez les Mayas. Et donc on voit ce continuum qui fait que au-delà des évolutions typologiques et chronologiques que les archéologues s'ingénient à construire pour mieux comprendre, on voit quand même une certaine unité de tous ces peuples. On voit aussi combien il faut se les représenter comme des Amazoniens. Il faut imaginer qu'un Taïno ou plus tard un Kalinago, pour se l'imaginer, c'est un homme qui effectivement pour les Européens, va apparaître nu, mais en fait, il n'est pas nu. Il est paré de peintures corporelles, il a le crâne déformé, il va porter des parures de plumes, de coton et autres. Et en fait, c'est l'œuvre d'art, d'ailleurs, majeure de ces sociétés amazoniennes et caribéennes, c'est le corps lui-même, alors qu'au niveau de la culture matérielle, parfois, c'est plus limité, même si les Taïnos ont développé un art exceptionnel.
Et là, cet art, il est bien sûr présent dans cette exposition aux origines de la Caraïbe qui est présentée à la Fondation Clément à la Martinique. Je ne peux pas résister, André Delpech, à vous demander de décrire certains de ces chefs-d'œuvre de la culture Taïno.
On a des pièces assez remarquables et là, il faut voir que l'exposition bénéficie de prix exceptionnels, aussi bien du musée du Quai Branly. Nous avons des pièces venant du musée du Vatican, de Londres, de Berlin, et puis aussi, bien entendu, de la région caraïbaine, Guadeloupe et Martinique, mais aussi République dominicaine ou Porto Rico. Parmi les pièces les plus spectaculaires, il y a ce qu'on appelle des duos, qui sont des sortes de sièges cérémoniels taillés dans un bois imputrescible qui s'appelle le gaillac, qui a aussi des vertus magiques et médicinales, et qui est par essence le symbole du chef. S'asseoir sur un duo, uniquement les gens de haut rang peuvent s'y asseoir, et c'est vraiment le symbole d'autorité. Et par ailleurs, ce sont des pièces exceptionnelles, taillées dans du bois avec des incrustations qui pouvaient être en or, en coquillage. Malheureusement, souvent, l'or a disparu. Donc ça fait partie des pièces remarquables. On a aussi des urnes funéraires. Le musée de Bar-le-Duc, dans le nord de la France, par une histoire assez rocambolesque, possède une urne funéraire exceptionnelle du XIe siècle, qui en fait en ronde bosse la sculpture d'un homme de haut rang et dans lequel des ossements humains étaient insérés. Et puis on a des pièces très énigmatiques dans les Antilles et là aussi qui sont une continuité depuis les Saladero jusqu'au Taïno. C'est des choses que les archéologues, faute de mieux, appellent les pierres à trois pointes. C'est des objets qui ont en commun d'être d'une forme triangulaire quand on le regarde de profil, mais ils seront très disparates. On va en avoir certains qui font 2 cm de long, de taille plutôt, comme on en a trouvé lors de fouilles par exemple en Guadeloupe. Et puis, on a des pièces qui font 40-50 cm, ornées de têtes sculptées, d'animaux, de serpents enroulés. C'est vraiment fascinant. Visiblement, vu leur forme, ces pièces étaient structurées et posées sur des structures en bois. Mais alors, qu'est-ce qu'elles signifiaient ? Là, c'est les limites de l'archéologie. Quand on touche au domaine du religieux, du mythique, on peut observer des choses, on peut observer des constantes, parfois on peut déchiffrer certains symboles, mais ces pierres à trois pointes restent un mystère et font l'objet de débats et de colloques sans fin.
Il y a aussi des objets qui sont peut-être plus prosaïques, des spatules un peu particulières.
Alors on a des spatules vomitives, dites vomitives, puisqu'en fait les Taïnos pratiquaient la prise de substances hallucinogènes, enfin les Taïnos, les chefs Taïnos et surtout les chamans, comme on en connaît dans d'autres parties des Amériques. Là, on inhalait une substance qu'on appelle la caoba, qui est un arbre connu, hein, les graines de cet arbre. Et pour entrer en contact avec les esprits, en fait, le chaman sniffait. Alors on a aussi des inhalateurs en forme de Y, qui parfois sont des petits chefs-d'œuvre sculptés en bois ou en os. Mais avant, pour être complètement purifié, on va se faire vomir à l'aide de ces spatules. Et en particulier, on a des spatules en bois qui sont magnifiques. Donc c'est une longue tige qu'on va se mettre au fond de la gorge. Mais au sommet, il y a souvent une sculpture magnifique. C'est un raffinement assez exceptionnel. À la suite de ça, le chaman rentre en contact avec les esprits et qui vont lui dicter un certain nombre de choses sur la guerre, sur les alliances matrimoniales, sur les récoltes, etc.
André Delpuech, on parle depuis tout à l'heure de ce qui rassemble ces communautés taïno dans l'archipel de la Caraïbe. On n'a pas encore parlé de l'unité ou pas linguistique. Quelle langue parle...
Alors là aussi, l'exposition défait un cliché qui malheureusement s'est maintenu pendant très longtemps. Quand les Européens sont arrivés, ils ont enregistré, si je puis dire, quelques éléments du langage des Taïnos et de leurs voisins des Grandes Antilles, et que les linguistes plus tard ont qualifié de langue arawak, d'une grande famille linguistique qu'on retrouve en Amazonie. Et puis arrivé chez les Kalinago, il semblait que les hommes en particulier parlaient une langue différente, alors que les femmes semblaient parler plus ou moins la même langue. Et on a raconté cette histoire simpliste, c'est que les femmes étaient des femmes arawak descendantes des Saladeros, dont les maris ou les hommes avaient été tués par les envahisseurs Kalinago, qui étaient des Caraïbes, à l'époque on les appelait pas Kalinago, qui parlait une langue caraïbe. Ça, c'est complètement faux. Tous ces gens-là, des petites Antilles, les Kalinago, ce qu'on appelait autrefois les Caraïbes insulaires, parlent en fait une langue arawak. Donc c'est pour ça aussi qu'on arrête de les appeler Caraïbes, parce que finalement, on s'y retrouve plus. Il existe une famille linguistique caribé, qu'on retrouve chez les Kalina de Guyane, par exemple. Et en fait, les guerriers Kalinago, qui étaient à la fois des grands commerçants et des grands guerriers, qui circulaient dans tout l'espace antillais et aussi sur les Guyanes, avaient des éléments de langage caraïbe qui leur servaient lors des échanges, lors des contacts avec les communautés caraïbes du continent. Et c'est vrai que c'était une langue réservée aux humains, comme il y avait une langue aussi plus pour les anciens, aux hommes, pardon, et comme il y avait une langue aussi pour parfois les anciens. Mais ça, c'est des choses qu'on reconnaît par ailleurs. Donc tous ces gens-là, pour faire simple, parlent arawak. On les appelle Kalinago, puisque c'est par ce terme même qu'ils se désignaient au XVIIe siècle, quand un missionnaire, le père Breton, a vécu plusieurs années chez eux et nous a laissé un fameux dictionnaire qui nous renseigne beaucoup sur cette société.
Alors là, on se tourne du coup vers les petites Antilles où habitent ces Kalinago. On a décrit les structures sociales, politiques, religieuses qui étaient celles des Taïnos. Pour les Kalinago, les choses sont plus complexes et différentes.
Les Kalinago, oui, c'est plus complexe, plus différent. On avait des sources écrites, hein, notamment grâce aux missionnaires français, puisque rappelons que les Français s'installent dans la Caraïbe, en Guadeloupe et en Martinique en 1635. En fait, c'est dans la première moitié du XVIIe siècle que les Anglais et les Français vont véritablement coloniser les petites îles des Antilles délaissées par les Espagnols. Et là, les peuples qui vont rencontrer, évidemment, on a des informations, et notamment de la part de tous ces missionnaires français et de quelques profanes, mais en général, c'est plutôt des missionnaires. Donc, ils nous racontent un tas de choses sur ces Kalinago, mais déjà, il faut être un peu prudent, puisqu'ils décrivent une situation qui est 150 ans après l'arrivée des Européens, où déjà, les choses ont pas mal bougé. Néanmoins, ce qu'on en sait, c'est que ces sociétés sont très différentes des sociétés Taïno, des Grandes Antilles. On a maintenant des renseignements par l'archéologie. Enfin, on a trouvé des sites de l'époque de contact, donc on est sûr que ces gens-là ont vu les Européens, et donc sont bien les contemporains de ce qu'on a appelé les Kalinago. C'est des petites unités. On est dans des sociétés beaucoup moins hiérarchisées où, en fait, la hiérarchie se limite au niveau du village. Il y a le chef de village. Les villages sont des petites communautés très mobiles qui peuvent déplacer leurs habitants en fonction aussi des travaux des champs. Là, c'est une culture sur brûlis dans la forêt. On n'est pas du tout dans la même structure. Mais néanmoins, ils vont s'allier régulièrement. L'aura d'un chef va inviter ses congénères et lors d'une grande fête de bière de manioc, hein, ce qu'on appelle le wiku, on va les inciter à partir en guerre, par exemple, contre les ennemis intimes, ceux des grandes îles, hein, les Arawak des îles ou du continent. C'est dans un cycle d'une vengeance immémorielle. Et ces raids guerriers qui vont entraîner plusieurs centaines de guerriers Kalinago en pagaie, qui ont même impressionné les Espagnols, vont à la fois rapter des femmes, des biens, et puis surtout capturer des ennemis au combat qu'on va ensuite tuer pour le rite cannibale qu'ils pratiquent. Et c'est évidemment ça qui a été décrit de manière horrible. On ne va pas faire l'apologie du cannibalisme, mais ce cannibalisme... On ne mange pas n'importe qui, j'aime bien dire. On ne mange que l'ennemi capturé au combat. Ce n'est absolument pas pour se nourrir. C'est pour, en fait, récupérer sa force, ingérer sa force dans un cycle de vengeance. Donc, c'est complètement ritualisé. Et évidemment, les Européens n'ont pas compris. Et tout de suite, on a pu décrire des scènes de, véritablement de boucherie. Et il y a des peintures qui en témoignent, qui sont complètement fausses.
Concernant ces Kalinagos, quelles traces matérielles on a de ces sociétés qui, comme on l'a compris, sont peut-être plus éclatées, plus difficiles à discerner les unes des autres?
Pendant longtemps, c'était un problème. On savait pas, on connaissait pas la culture matérielle de ces Kalinagos. On les cherchait, mais on n'arrivait pas à les trouver, si je puis dire. Et il y a eu plusieurs avancées significatives ces 20 dernières années. D'une part, en archéologie. Dans les îles du Sud, des petites Antilles, à Grenade, à Saint-Vincent, depuis peu à la Guadeloupe, on a trouvé des vestiges avec de la céramique amérindienne, des outils en coquillage, en pierre, associés à du matériel européen, notamment espagnol, des faïences aussi, des monnaies du début de la conquête, donc on est au XVIe siècle. Donc on a pu reconstituer des plans de village qui ressemblent comme une goutte d'eau à ce que décrivent les chroniqueurs. Et donc là, ça y est, on est à peu près sûr. Et puis maintenant, on compare ces céramiques qu'on a trouvées, d'un style qu'on appelle le style caillot, mais ça c'est les spécialistes, avec des choses qu'il y a sur le continent, et on se rend compte que là, on a sans doute maintenant la preuve que ces gens-là viennent du continent, ils viennent du plateau des Guyanes, pas forcément la Guyane française, mais plutôt des Guyanes hollandaises, enfin ex-Guyane hollandaise, ou du Guyana, ou des Guyanes vénézuéliennes. Ça, c'est pour un premier plan.
Allez-y, je vous en prie.
Et pour le second plan, on s'est intéressé, avec un collègue, Benoît Roux, à se dire que les Français ayant colonisé ces îles, ils ont forcément ramené des objets lors de ces conquêtes, mais personne ne les avait vraiment vus, puisqu'ils étaient dans les cabinets des curiosités des rois de France ou des aristocrates. À la Révolution, tout a été mélangé, et ultérieurement, nos prédécesseurs ont rangé tout ça comme amazonien. Et là, nous avons démontré qu'en fait, au milieu de ces pièces, il y a des casse-têtes, il y a des vanneries, des calebasses, qui se rapportent aux Kalinagos des petites Antilles. Donc voilà, petit à petit, on reconstitue leur équipement matériel.
Parmi ces casse-têtes ornées, André Delpech, certains présentent même, nous donnent à voir des connaissances que pouvaient avoir ces Kalinagos en matière d'astronomie, en matière de navigation.
C'est une de nos interprétations. Il se trouve que sur ces casse-têtes qui sont dans des bois très durs, très denses, qui peuvent faire 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 50, dans la partie distale, on retrouve des motifs géométriques très élaborés, très structurés, très beaux d'ailleurs sur un plan esthétique, et qui, par l'interprétation de certains collègues, je pense à Dimitri Karadimas, un ami anthropologue malheureusement décédé, on pense qu'il peut y avoir représentation de constellations. On sait par ailleurs, grâce au dictionnaire de Breton et d'autres renseignements, que les Kalinagos avaient une grande maîtrise de l'astronomie et des étoiles, avec des désignations, avec des noms, avec des divinités. Et il faut penser que ce sont des marins qui peuvent naviguer aussi la nuit, donc ils connaissent parfaitement leur espace, le ciel qui est au-dessus de leur tête.
Je bois vos paroles, André Delpech, et je regarde pas la pendule, c'est une erreur professionnelle. Mais on arrive bientôt près de la fin de cette discussion. On est quand même obligé de parler du devenir et de ce que la colonisation a fait à ces cultures-là. Est-ce qu'on peut parler d'une annihilation, ou bien est-ce qu'il y a des persistantes, des survivances de ces cultures Taïno et Kalinago dans l'actuel Caraïbe?
Ça a été un véritable drame, effectivement. Ce sont les premiers, ces habitants des Antilles, à avoir subi le choc de la conquête. Les Taïno, les premiers, donc dans les grandes Antilles, Hispaniola, va devenir le point central du départ de la colonisation européenne. N'oublions pas que pendant 30 ans, c'est là que ça se passe. Mexico et les Aztèques, c'est 1519-1521. Mais pendant 30 ans, les Espagnols vont forger ce qui va devenir une règle pour la suite, en fonder des villes, on va répartir les Amérindiens pour qu'ils travaillent dans les mines, etc. Et il va y avoir à la fois maladie qui va décimer la population, famine, guerre, qui fait que les Taïnos vont quasiment disparaître de la surface de la Terre. Néanmoins, il y a des survivances, puisque ces conquistadors étaient des hommes. Ils ont eu des enfants de gré, ou plus souvent de force, avec des Amérindiennes, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les populations des Grandes Antilles, on trouve trace, génétiquement parlant, de beaucoup de présence Taïno.
Je suis très déçu de ne pas pouvoir aller à la Martinique demain pour voir cette exposition, mais je me console en disant qu'il y a ce magnifique catalogue aux origines de la Caraïbe, Taïno et Kalinago, paru aux éditions Hervé Chopin. Merci beaucoup André Delpech, et on souhaite longue vie à cette exposition, et on lui souhaite une belle itinérance dans la Caraïbe. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe de Science Chrono, l'entretien archéologique. Merci à Alex Dang aujourd'hui à la technique, et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.